RCF.
Ils sont trois autour de la table, Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz, et je vous laisse découvrir le troisième.
Bonsoir à tous, bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
On est jeudi aujourd'hui.
On est jeudi, et c'est pas
jeudi. Mais alors jeudi, c'est qui? Mais c'est Gérard-Marie Henry. Tous les jeudis, mais Fabrice, vous perdez la tête, c'est du direct, Gérard-Marie Henry. Tous les jeudis à 18h10, c'est bien sûr le regard économique, question d'économie.
On va parler aujourd'hui d'une Chine qui ne va pas forcément bien, mais qui sur le marché de l'automobile cartonne.
Oui, tout à fait, qui vend pas mal de voitures et ça commence à inquiéter les Européens.
Bon ben on va y revenir d'ici quelques instants avec vous Gérard-Marie Henry. La bonne nouvelle Jean-Pierre, elle nous vient des Ardennes.
Ah, la bonne
vous
nouvelle
pour la télé
Ardennes.
Hier soir.
Depuis hier, moi je ne fais rêver qu'à ça, le château fort de Sedan est le monument qui est le préféré des Français.
De l'émission de Stéphane Bern.
Alors ça peut avoir, et ça Gérard-Marie pourrait nous éclairer dans une prochaine émission, un impact économique sur des venues de touristes, on verra bien. En tout cas, le maire de Sedan, Monsieur Herbillon, est vraiment très très heureux. Et puis j'ai une nouvelle, mais qui n'en est pas une, qui ne peut pas être annoncée, mais je dis quand même quelque chose. Peut-être me trompais-je, Alexis, à propos de Sedan. On peut avoir d'excellentes surprises à propos du CSSA.
Ah bah écoutez Jean-Pierre, si vous espérez d'excellentes surprises, on les espère, tous.
Dans quelques jours, tenez, jeudi prochain, avec Gérard-Marie Henry, on va peut-être tomber de notre chaise.
Ah ben écoutez Jean-Pierre, je le souhaite, mais vous êtes bien optimiste.
Et si on tombe de notre chaise, on ira voir Geneviève Loison et son petit champagne, et avec Gérard-Marie, on fêtera vraiment cette bonne nouvelle.
Bon ben écoutez Jean-Pierre, c'est tout ce que l'on souhaite pour le
CSSA. C'est quand même pas mal ça, comme scoop.
On ne dit pas ce que c'est, mais j'ai eu du mal à croire à des grands scoops.
C'est relatif au football.
Sachant que le championnat a déjà repris, etc., je ne vois pas quelles pourraient être les bonnes nouvelles. Après, si c'est des investisseurs qui restent, tant mieux, mais c'est quand même assez attendu.
On verra bien Alexis.
On verra. Jean-Pierre, quand vous faites des pronostics de sport, vous m'inquiétez. On sera également avec des maires ce soir, Jean-Pierre. Deux pour le prix d'un.
Oui. Avec Madame Rose, qui est maire de Murphy, qui est d'ailleurs l'épouse de Jean-Marc Rose, le vice-président de la communauté du Grand Reims. Elle est avec nous aujourd'hui.
Et puis, comme hier, on n'avait pas eu l'occasion d'aller du côté du Mont-Dieu, eh bien, on ira aussi à la rencontre d'Anne Frépon.
Anne Frépon.
Et je sais que ça vous fait le plaisir de le dire, Jean-Pierre.
Oui, à ça, j'adore ça.
Comment on appelle les habitants du Mont-Dieu?
Il y a 14 habitants, il y en a même 11 maintenant. Elle est maire de cette commune. Le Mont-Dieu, les habitants, c'est les montagnards divins. Alors, sur RCF, on a été obligé de les prendre. D'abord, pour les montagnards, bien sûr, et divins, évidemment.
On évoquera également les journées européennes du patrimoine. C'est ce week-end, d'ailleurs, à noter que l'Institut catholique de Paris sera ouvert ce samedi, ouvrira ses portes. Et le samedi matin, vous pourrez aussi visiter les studios de votre radio RCF.
Absolument, nous serons là, l'équipe au complet.
Bon, enfin, vous serez là, Jean-Pierre.
Vous ne serez pas là, Alexis, parce que...
Quand vous dites l'équipe au complet...
comme avec Gérard, vous allez bien sûr...
On part en road trip avec Gérard. On va faire des vendanges et déguster la cuvée 2023.
Faire des cours universitaires, mais vous avez parfaitement raison. Je vous encourage des deux mains et des deux pieds de faire tout ce que vous pouvez, mais pas lui. Week-end aussi, hein, non, ça marche.
On travaille samedi, dimanche, jour férié, on prend tout.
7 jours sur 7.
Quand il y a des business à faire, on est là.
Eh ben, bravo. Genre, il est 18h13.
18h13, bien passé, on va retrouver quand même Gérard-Marie Henry. Il y aura d'autres choses au programme ce soir. Gérard-Marie Henry, je suis allé sur un blog qui était assez chouette, ça s'appelle gérardmariehenry.com.
Oui.
Et là, on parlait voiture.
Oui.
Et de la voiture qui vient de Chine, les Chinois qui inondent le marché de voitures, comment sont-ils devenus si forts dans ce marché de l'automobile?
Ah, bonne question. Alors donc déjà, on a un marché de l'automobile chinois qui a progressé au cours des 30 dernières années de façon assez extraordinaire, puisque maintenant ils sont capables de produire entre 25 et 30 millions de voitures, avec à peu près 400 constructeurs chinois, très petits, du petit au grand, et les grands participe avec des firmes occidentales bien connues comme Volkswagen, BMW, Mercedes, tous ces gens-là sont implantés en Chine, donc il y a un outil de production assez extraordinaire, avec des coûts de production qui évidemment sont faibles puisqu'ils maîtrisent les batteries, ils ont l'électricité pas chère, etc. Donc un avantage comparatif certain. Et ce qui est assez remarquable, c'est que depuis 2, 3, 4 ans, les Chinois achètent de plus en plus de voitures électriques. Or, toute la production de voitures thermiques traditionnelles, les constructeurs chinois se disent qu'il faudrait la vendre à l'extérieur. Et donc, ils sont devenus, en fait, les premiers exportateurs mondiaux devant les Japonais.
Et ça, c'est fort. Parce qu'on ne pensait pas un jour que le Japon serait détrôné du marché de l'automobile.
Absolument, absolument.
Surtout par son voisin chinois.
Surtout par le voisin chinois. Les Coréens aussi sont forts, mais ils sont absolument battus à plate couture. Alors, quels sont les endroits où ces voitures chinoises sont déjà vendues? Bah, c'est bien sûr la Russie. Tous les constructeurs occidentaux en sont sortis, donc les Chinois en ont profité. C'est toute l'Afrique du Nord. L'Algérie achète des voitures chinoises depuis au moins 15 ans. C'est l'Afrique. Et puis, ça commence à être l'Europe. Avec une invasion assez récente de voitures qui sont pas mal et qui surtout sont pas chères.
C'est une mauvaise nouvelle pour les constructeurs français. On pense à Renault, on pense à Stellantis, anciennement PSA Citroën. C'est pas bon.
C'est pas bon. Alors, il y a une parade qui est en train de regarder la Commission européenne. C'est d'augmenter ce qu'on appelle les droits anti-dumping sur les voitures chinoises. Des droits anti-dumping.
C'est-à-dire, parce que on n'est pas forcément bilingue parmi nos auditeurs, bon. Gérard-Marie Henry.
Donc, dans les règles du commerce international, dans les règles de ce qu'on appelle l'Organisation mondiale du commerce, vous avez le droit de vendre aux autres, mais il faut pas tricher. Il faut pas faire de dumping. C'est-à-dire vendre à perte ou vendre en dessous de ses coûts de production. Or, on estime que assez souvent, les constructeurs chinois ou les vendeurs chinois font des prix qui sont un peu tirés à la baisse.
Oui, mais s'ils font des prix à la baisse, finalement, ils ne font pas du business.
Mais ils en font parce qu'ils vont tout progressivement conquérir le terrain. C'est ce qui s'est passé pour les éoliennes, c'est ce qui s'est passé pour les panneaux photovoltaïques. À partir du moment où vous cassez les prix, vos concurrents ils peuvent pas suivre. Donc ils disparaissent et après vous avez le marché et vous pouvez éventuellement remonter les prix à ce moment-là. Donc la parade des pays comme l'Europe face à cet comportement chinois, c'est de mettre ce qu'on appelle des droits anti-dumping. On essaye d'estimer de combien ils trichent, de combien de pourcents ils sont en dessous du prix normal. Et puis on dit, on vous taxe à 5, 10, 15, 20%, 30%. Des fois, ça monte jusqu'à 80%. Pour les voitures chinoises, pour l'instant, c'est 10%. Et la Commission européenne imagine de monter à 20%. Alors, les constructeurs français dont vous parliez tout à l'heure sont assez contents si cette mesure venait à être mise en œuvre, puisque ça les protégerait. Par contre, les constructeurs allemands qui sont forts sur le marché chinois se disent que si on fait ça sur les exportations chinoises, les Chinois vont se venger. Sur place, vont trouver des tas de petites astuces pour faire du mal à BMW, à Mercedes, à Volkswagen. Donc il y a vraiment deux camps dans les constructeurs européens. Il y a ceux qui ont peur d'être envahis, c'est-à-dire surtout les constructeurs français, puis ceux qui sont déjà sur le marché chinois et qui aimeraient bien quand même continuer à y être.
Alors j'allais dire aussi, Gérard-Marie Henry, cette Chine, elle est davantage plus forte que les règles sur le marché du travail, ce ne sont pas les mêmes.
Absolument.
Il n'y a pas de contrat, ça travaille jour et nuit, oui, et les voitures, elles se construisent, elles sortent de l'usine.
Absolument, donc on n'a pas du tout les mêmes normes, on n'a pas du tout les mêmes contraintes, on a effectivement des avantages qui sont assez extraordinaires, ça peut monter jusqu'à 10 000 euros sur une voiture moyenne. Le constructeur européen la vendrait à 30 000, et le constructeur chinois à 20 000, il gagne de l'argent. Donc ça fait beaucoup.
Avec quand même une question, est-ce qu'elles fonctionnent? En tout cas, est-ce qu'elles roulent aussi bien ces voitures?
Elles sont pas mal, elles ont monté en gamme de façon assez extraordinaire. On aurait fait l'émission il y a 10 ans, on aurait ridiculisé ces voitures chinoises qui dans les crashs se compactaient, qui avaient des problèmes électroniques, etc. Maintenant, c'est des voitures qui sont finies, alors ils ont embauché des spécialistes occidentaux. En général, leurs voitures, elles sont dessinées par des gens qui ont bossé chez Porsche, chez Volkswagen, chez Stellantis au besoin, qu'ils ont embauché comme designers, et à l'intérieur des voitures, ils ont des choses qui sont largement aussi bonnes que ce qu'on fait en Europe avec de l'info, enfin tout ce qu'il y a électronique qui est assez luxueux.
Mais comment peut réagir l'Europe face à cela, et la France plus particulièrement? Vous avez expliqué, on peut mettre des lois qui vont interdire, par exemple, l'anti-dumping, comme vous avez dit, Gérard-Marie Henry. Mais est-ce qu'il y a peut-être aussi des possibilités de rendre nos constructeurs meilleurs? C'est quand même ça, l'intérêt, finalement.
Ah oui, d'accord, finalement. Mais il faudrait 20 ans, quoi. Alors, donc là, le temps presse. Et alors, on a, bien sûr, ce qui fait du mal, c'est que le marché américain, lui, est complètement fermé aux voitures chinoises. Il est complètement fermé. Il était déjà avant Trump. Trump a durci les règles et Biden ne les a pas changées. Donc, les voitures chinoises ne sont pas sur le marché américain. Et comme elles ne peuvent pas aller sur cet énorme marché, évidemment, elles déboulent sur l'autre énorme marché qui est le marché européen.
Mais le marché européen peut aussi serrer la vis et dire pour nous aussi, c'est non.
Ah oui, d'accord. Mais avec
je vous provoque, moi, Gérard-Marie Henry.
Avec les problèmes que vont avoir les constructeurs allemands qui sont basés en Chine. machines et qui ont besoin, hein, par exemple Volkswagen fait à peu près un tiers de sa production sur en Chine même.
Et ça pose la question de la relocalisation peut-être.
Ah oui, non, mais si vous pouvez pas changer, Volkswagen est à peu près depuis 40 ans en Chine, il peut pas du jour au lendemain dire je reprends mes billes, je m'en vais, etc.
On peut pas imaginer la chaîne PSA revenir à Sochaux par exemple.
Bah, PSA freine un peu ses activités en Chine. Vous savez que par exemple on a des voitures, alors je crois que c'est une Citroën qui est construite en Chine, parce que les Chinois n'en achètent pas de ces Citroën françaises construites en Chine, et donc Citroën les réimporte, fait un peu ce que fait la Dacia pour la Dacia Spring électrique. Elle est faite en Chine, les Chinois ne l'achètent pas, et on l'importe en France pour que les Français aient des petites voitures électriques pas chères. Je crois que le premier modèle doit être à moins de 20 000 euros.
En tout cas, vous, Gérard Marie-Henri, vous roulez en voiture française ou en voiture chinoise ?
Je roule en voiture allemande.
Très bien. Bon, donc elle est fabriquée en Chine aussi quelque part.
Non, c'est pas une BM. Les BM électriques sont souvent construites en Chine et réimportées en Europe. Et donc, vous voyez, c'est assez complexe. Hein, le choix des constructeurs européens n'est pas évident, puisqu'ils font une partie maintenant de leur production haut de gamme en Chine. Et si l'administration chinoise devenait vilaine, bah, ils seraient un petit peu embêtés. Donc, il ne faudrait pas que la Commission européenne mette des droits anti-dumping trop élevés, même si Renault et Stellantis ont envie.
Merci Gérard-Marie-Henri de nous avoir éclairé. À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Le 18-19 à 18h21, savez-vous qui sont les montagnards divins, Jean-Pierre ? Vous en avez parlé tout à l'heure.
Bien sûr, c'est les habitants du Mont-Dieu, dans les Ardennes, à côté, à quelques kilomètres de Béron.
Avec une petite commune de 14 habitants, leur maire, Anne Frépon, vous parle, et c'est avec vous, Jean-Pierre, évidemment.
Madame Frépon, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette commune ? Il faut rappeler qu'elle n'a que 14 habitants.
Oui, alors on a perdu encore quelques habitants cette année puisque nous sommes aujourd'hui à 11 habitants.
Alors 11 habitants, mais alors il y a des membres de votre famille, des agriculteurs, ces habitants, que font-ils au Mont-Dieu ?
Alors oui, il y a des personnes retraitées, il y a des actifs, il y a des agriculteurs, effectivement, il y a des enfants, bon, c'est assez représentatif, mais 11 habitants, 7 conseillers, donc chaque famille est représentée.
Alors ça c'est formidable, mais le Mont-Dieu, quand on connaît un peu l'histoire des Ardennes, on a l'image de ce bâtiment, de cette chartreuse du Mont-Dieu.
Mmh. Tout à fait. Le Mont-Dieu, donc, c'est une commune tout à fait atypique, hein, puisque bon, il y a cette magnifique chartreuse, la forêt domaniale, donc c'est ce qui caractérise la commune. Il n'y a pas de centre de village, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mairie. C'est la commune, c'est la chartreuse et 8, 9 sites qui en dépendaient historiquement.
Alors, Anne Frépon, les réunions du conseil municipal, vous la faites dans la chartreuse, forcément?
Non, on les fait chez moi, puisque la mairie, les archives sont hébergées chez moi, donc nous organisons les réunions de conseil chez moi.
Alors vous êtes maire depuis quelques années, Anne Frépon ?
Oui, tout à fait, j'ai pris en cours de mandat en 2005, donc voilà, ça fait effectivement quelques années.
C'était un peu dans votre ADN, il faut dire aussi que vous avez une responsabilité comme vice-présidente du conseil départemental des Ardennes, mais là, vous avez une expérience de terrain de commune, ça c'est très important.
Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est vrai que j'étais déjà conseillère municipale avant 2005, j'avais évidemment un intérêt pour la vie de la commune, le développement, et effectivement j'ai poursuivi en 2015 en me présentant au conseil départemental.
Alors évidemment, celles et ceux qui nous écoutent de la Marne en particulier, mais aussi des Ardennes, ils entendent bien sûr le nom du Mont-Dieu, mais ils n'arrivent pas forcément à situer où est exactement le Mont-Dieu dans le département des Ardennes.
Alors le Mont-Dieu, avec ses montagnards divins, je tiens à le préciser, se situe donc entre Chémery-Chéry et Le Chêne, pour être un peu plus large, entre Sedan et Vouziers. Oui. À mi-distance entre Sedan et Vouziers, dans le massif, c'est le début du massif de l'Argonne.
Pas trop loin du lac de Béron, par là, enfin pas trop loin.
Tout à fait, on est à une dizaine de kilomètres du lac de Béron, bien sûr.
Alors c'est peut-être passé inaperçu, mais pas aux oreilles des auditeurs avisés, vous avez donné le nom des habitants du Mont-Dieu. Comment s'appellent les habitants du Mont-Dieu ?
Alors, les montagnards divins.
Les montagnards divins.
Excusez-moi du peu.
Mais c'est quand même extraordinaire. Des montagnards qui se trouvent dans le département des Ardennes. Alors, le maire est souvent sollicité. Beaucoup s'interrogent face aux responsabilités. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui refusent de prendre la responsabilité de maire aujourd'hui. Parce qu'ils se disent, on est en première ligne et c'est pas toujours facile.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison de le préciser. Et c'est vrai que les responsabilités, enfin, on l'abordera peut-être un petit peu après, mais bon, avec les communautés de communes, bon, il y a certaines compétences que les communes ont perdues. Mais pour revenir à l'échelon communal, moi, j'accorde beaucoup d'importance à cet échelon qui est le premier échelon en fait accessible aux administrés. Et oui, les administrés se tournent
vers le maire.
Voilà, surtout dans les petites communes.
Absolument.
Hein, où il y a peu de services.
Vous avez raison.
Voilà.
Vous avez raison, Madame Frépon. Alors, les communautés de communes, vous venez de les évoquer, et les regroupements, est-ce qu'ils ont modifié le rôle? Est-ce qu'on dit toujours, est-ce que le maire est toujours le patron chez vous, dans sa commune?
Oui, bien sûr, il l'est. Hein, mais c'est vrai que depuis la loi NOTRe, donc depuis 2015, hein, comme je vous le disais, il y a eu un certain nombre de compétences transférées aux communautés de communes. Bon, le maire peut rester impliqué ben, s'il participe aux réunions de communautés de communes, s'il s'implique au niveau de cette collectivité. Voilà, il peut rester très actif à ce niveau-là.
Mais il faut dire que vous, enfin, je vais revenir sur vous, parce que comme vous êtes aussi vice-présidente du Conseil général des Ardennes, vous avez aussi un regard un peu plus, entre guillemets, départemental, général, et donc ça aussi, ça peut vous aider dans le cadre de votre commune. Vous êtes au courant de beaucoup de choses.
Oui, c'est sûr que c'est un atout. C'est voilà, c'est une vision beaucoup plus large. Bon, malgré que la commune, 11 habitants, comme je vous disais, avec peu de services. Hein, notre principale préoccupation pour revenir à la commune est la voirie. Hein, on n'a pas de lieu public, on n'a pas. C'est vraiment la voirie.
C'est les routes, c'est l'aménagement, voilà.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on vous demande? Quel type de demandes, de questions sont formulées par? Mais comme ils sont 11, vous pouvez les voir un par un. C'est vraiment incroyable. Là, vous pouvez les questionner régulièrement. Vos habitants.
Oui, c'est vrai que déjà, comme je vous disais, chaque famille est représentée. Il y a pratiquement tous les 7 conseillers sont présents à chaque réunion de conseil municipal. Donc c'est vrai qu'il y a un échange de proximité régulier. Donc ils me sollicitent à cette occasion. La mairie n'a pas d'heure d'ouverture. La secrétaire est là en général. Elle travaille à distance ou elle vient une fois par mois. Il n'y a pas plus de besoin. Alors les sollicitations, ça va être l'état civil, mais ça va être 3 fois par an. Et puis ben, les soucis de voirie, chacun dans sur son secteur, hein, voirie, bas-côté, soucis d'entretien, c'est essentiellement les sollicitations que je reçois.
Mais même justement, c'est assez exceptionnel, même quand il y a 11 habitants dans la commune, ça veut dire que quand même, là ils ont un interlocuteur ultra proche, le maire, ils sont pas du tout abandonnés comme s'ils avaient été dans un grand ensemble.
Oui, c'est sûr. Hein, voilà, il y a une proximité. Très
et vous avez quand même, malgré que bon, il y a et vous êtes peu nombreux, mais vous avez des projets essentiellement de voirie en cours à plus long terme. Oui. C'est voilà, essentiellement ça.
C'est ça, voilà, c'est ça. On ne peut pas, de toute façon, comme je vous disais, on n'a pas, voilà, pas aucun lieu public, aucune propriété communale. Donc, mais je pense que le projet, c'est le maintien. On est vraiment soucieux, le maintien correct de l'état de la voirie.
Alors, j'ai quand même une question qui n'est peut-être pas, c'est pas peut-être un petit peu décalé, mais la région du Mont-Dieu, elle est assez exceptionnelle au niveau de l'environnement, des forêts, etc. On peut se promener du côté du Mont-Dieu. On ne visite pas, hein, je crois, la Chartreuse. Hein, c'est privé. Non.
Voilà, c'est ça. La Chartreuse est une propriété privée, mais oui, pour répondre à votre question, en matière de balade, c'est à l'infini. C'est à l'infini. La forêt nous offre de magnifiques balades. Et puis, comme je vous disais en commençant, c'est le début du massif de l'Argonne. Donc oui, au niveau naturel, on a un patrimoine exceptionnel.
Pour terminer, Anne Frépon, parce que le temps passe très vite avec vous, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une mère heureuse? Est-ce que vous êtes contente de cette mission, de cette fonction?
Oui, bien sûr. Oui, c'est intéressant. Et ce qui est très agréable dans la commune du Mont-Dieu, c'est qu'il y a une bonne ambiance de travail, il y a une solidarité entre tous. Voilà, oui, tout à fait.
Anne Frépon, on va se faire une promesse, c'est que d'ici quelques temps, vous reveniez sur l'antenne, peut-être comme vice-présidente du conseil départemental ou d'autres fonctions pour nous parler un petit peu de votre région des Ardennes à laquelle vous êtes particulièrement attachée. En tout cas, merci Anne Frépon, maire du Mont-Dieu, avec les montagnards divins, d'avoir été avec nous. Et à très bientôt sur RCF. Au revoir.
Je vous en prie, merci à vous, au revoir.
Au revoir. À très bientôt sur RCF. Et d'ailleurs, dans une poignée de minutes, aux alentours de 18h50, on retrouvera Madame Rose, la mère de Murphy, qui était avec nous ce midi. En attendant, en regardant la pendule, il est 18h30, l'heure précisément du journal régional avec Alexis Claudretz, qui est en direct avec nous.
Avec les titres de ce jeudi 14 septembre, un prêtre du diocèse de Chalon, le père Pascal Tindano, a participé hier aux vendanges à Saudois, près de Cézanne, en compagnie d'une famille normande et fidèle. Reportage, une rencontre 100% féminine est organisée chez les Clarisses de Cormontreuil lundi. Zoom sur cet événement.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Mais Jean-Pierre, vous en parlez en ouverture de ce magazine régional. L'actualité, c'est le château fort de Sedan qui est devenu hier soir, Jean-Pierre,
le monument préféré des Français.
Parmi 14 finalistes, tout un symbole pour cet écrin historique qui a accueilli son 100 millième visiteur de l'année le 9 septembre dernier. L'an dernier, il avait fallu attendre fin décembre pour atteindre ce chiffre exceptionnel. Didier Herbillon, maire de Sedan, se réjouit de cette nouvelle.
Et oui, effectivement, on a eu cette grande joie et cette grande fierté d'avoir été élu monument préféré des Français. C'est la consécration, je crois, pour notre château, pour notre ville, parce que ça fait plus de 40 ans que les municipalités successives travaillent à le restaurer, à l'animer, à faire en sorte que ce soit un véritable produit touristique. Aujourd'hui, c'est fait. Le château, vous le voyez, acquiert des lettres de noblesse nationale et sans doute internationale également. De ce fait, nous sommes ravis que tous ces efforts aient été couronnés et salués.
Ça va donner, monsieur le maire, un coup de projecteur considérable sur ce temps, sur l'attractivité. Une émission qui est relayée comme ça, d'ailleurs, sur les grandes chaînes de télé comme France 2 tout récemment, forcément, ça va attirer du public.
Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, tous les monuments qui ont obtenu ce label ces derniers temps, ces dernières années, ont vu leur fréquentation augmenter de entre 25 et 30%. Sedan n'échappera pas à cette belle règle et on fera tout en effet pour booster aussi, nous, de notre côté, cette fréquentation en surfant sur cet événement.
Didier Herbillon, le maire de Sedan, qui est en ligne avec vous, Jean-Pierre. On le retrouvera la semaine prochaine dans le 18-19 en Champagne lorsque l'on ira à la rencontre des maires de notre territoire, de la Marne et des Ardennes. Depuis début septembre, 120 000 travailleurs saisonniers rejoignent les vignes pour les vendanges en Champagne. À Saudoy, dans le sud-ouest Marnais, un prêtre a participé à la récolte, Christopher Fausten.
Père Pascal Tindano, originaire du Burkina Faso et prêtre dans l'espace missionnaire Brie, a participé ce mercredi à la récolte du raisin.
Ça se passe bien, c'est assez physique, mais moi j'aime bien parce que ça me fait penser aux récoltes dans mon pays. Parce que moi, mes parents sont des paysans, j'ai le goût de la nature, quoi, être en contact avec la nature. Quand j'ai la possibilité, je vais faire les récoltes, et là c'est la vigne. Ça me plaît de faire le vendage, ça me met en contact avec la nature, la création.
Sous un ciel couvert et des températures plus agréables que ces derniers jours, le père Pascal est accompagné par une équipe dont la tranche d'âge varie entre 24 et 75 ans, 17 coupeurs, 3 porteurs, sans oublier les cuisiniers, afin que les vendangeurs puissent travailler dans de bonnes conditions. On retrouve des Vosgiens, des Alsaciens et une grande famille venant de la Normandie. Pour Roger, c'est plusieurs générations qui se relaient dans les vignes de Sedan.
C'est une entreprise familiale. On est accueilli pour faire les vendanges. On ne vient pas faire les vendanges. On est accueilli pour les faire. Et la preuve, c'est que moi, je suis venu la première fois en 1984 et je suis toujours là. Donc, les enfants sont venus. Certains de mes frères qui venaient avant, même leurs petits-enfants sont venus. Voilà. Bah, peut-être que les miens vont venir aussi un jour. C'est comme un pèlerinage. Voilà.
Ils viennent depuis 40 ans. Mais il y a de quoi dire que c'est comme un pèlerinage, oui.
Plusieurs membres de l'équipe ont posé des congés exprès pour réaliser ces vendanges en Champagne, dont un étudiant en informatique, un moment physique mais surtout convivial.
Mais maintenant j'ai vieilli, donc je suis moins rapide.
C'est pas facile, mais c'est sportif. Après, la nuit tu dors bien, quoi. C'est comme si tu avais fait les Jeux Olympiques.
Le soir, après casser un verre de champagne, on est bien.
Encore deux jours à tenir pour cette équipe de vendangeurs.
Un reportage de Christopher Fausten pour RCF Cœur de Champagne. Depuis les premiers coups de sécateurs début septembre, 4 d'entre eux sont décédés, ces vendangeurs, à la suite d'arrêts cardiaques. Plusieurs enquêtes sont ouvertes pour comprendre l'origine de ces décès. C'est dramatique, c'est la première fois que ça arrive. C'est aussi la première fois qu'il fait aussi chaud. On n'est pas habitué à des vendanges sous des températures pareilles. C'est ce qu'indiquait le président du syndicat général des vignerons de la Champagne, Maxime Toubar, chez nos confrères de RTL. Et puis, on avait eu un reportage hier sur les vendanges où certains vignerons nous indiquaient également les précautions qui étaient mises en œuvre justement pour lutter ou en tout cas se préserver face à ces fortes chaleurs. Vous pouvez réécouter le 18-19 en Champagne d'hier en rubrique réécoute sur le site RCF. Lundi 18 septembre, les sœurs Clarisse de Cormontreuil ouvrent les portes de leur monastère pour une soirée exceptionnelle organisée par l'antenne rémoise du Curiosity Club qui part une fois par trimestre à la rencontre de femmes remarquables du territoire. Sœur Marie-Catherine et sœur Elisabeth-Marie témoigneront de leur vie et de leur engagement pendant près de 3 quarts d'heure. Charline et Pascaline, 2 des 6 cofondatrices du Curiosity Club Reims, apportent quelques précisions.
C'est une soirée à laquelle nous convions des femmes pour venir écouter 2 sœurs nous parler de leur parcours, comment leur vocation est née.
Elles vont nous raconter leur vie d'avant, avant de devenir sœurs, comment se manifestait leur foi, quels ont été leurs questionnements, en quoi c'était pas forcément une destinée toute tracée. Et puis elles vont aussi nous parler de leur quotidien chez les sœurs Clarisse de Cormontreuil.
Cette soirée qui débutera à 19h30 par un cocktail de bienvenue et qui se clôturera vers 22h30 après un repas partagé est exclusivement réservée aux femmes. Explication.
Oui, c'est ça. En fait, le sujet c'était d'ouvrir seulement aux femmes, puisqu'on a remarqué que quand les femmes sont seulement ensemble, il y a une sorte d'intimité qui se crée, il y a une sorte de rapport d'échange et de confiance. Non pas qu'avec les hommes ça ne se crée pas, mais il y a quand même beaucoup plus de facilité. En plus, les sœurs ont adhéré à ce concept de pouvoir se livrer sur leur vie, sur leur intimité vis-à-vis d'autres femmes.
Oui, ça crée un climat propice aux confidences aussi et rassurant dans le sens où on est peut-être plus à même de se comprendre plus facilement.
Charline et Pascaline au micro de RCF Reims-Ardennes. Les inscriptions sont toujours ouvertes sur le site internet www.curiosity-club.com. 30 euros la soirée. 18h37, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne-Ardennes continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Avant d'attaquer la suite des programmes, faut avouer, à moitié pardonner, c'est une bonne remarque de la part de Fabrice Gironet qui me disait « Mais tu sais Alexis, la rubrique réécoute sur le site rcf.fr, c'est obsolète évidemment, RCF a fait peau neuve pendant l'été sur son site internet, désormais on retrouve les programmes en réécoute dans la rubrique programme, justement, voilà, c'est aussi simple que ça. Encore faut-il sélectionner sa radio locale, RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, le 18-19 en Champagne-Ardennes, vous la retrouvez sur ces 2 stations. À 18h38, nous, on retrouve un autre programme. Parole de jeunes dans ce magazine régional avec Jeanne Boudre à la présentation.
Bonjour et bienvenue dans Parole de jeunes. La semaine dernière, c'était la rentrée pour les lycéens et aujourd'hui, on se retrouve avec Maria et Pauline pour en discuter un petit peu. Bonjour Maria et Pauline.
Bonjour.
Bonjour.
Comment s'est passée cette rentrée pour vous ?
C'était un peu stressant, mais on a repris le cours l'année dernière. Ça venait naturellement et puis maintenant, il faut s'habituer, il faut travailler.
Bon, c'était une rentrée plutôt bien. Beaucoup de stress parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais ça allait. Ça aurait pu être pire et je m'attendais à pire.
Vous dites que vous avez été stressée. Pourquoi est-ce que vous étiez stressée ?
Alors d'abord pour les emplois du temps, parce qu'on avait un peu peur de finir super tard, de commencer super tôt. Mais au final, je pense que pour ma part, mon emploi du temps est assez moyen. Et puis aussi, oui, les professeurs qu'on ne connaît pas, les élèves qu'on ne connaît pas, le nombre de personnes dans la classe. Et puis au final, ça va.
Quels sont vos objectifs cette année ? Puisque vous êtes entrée en terminale, c'est la dernière année de lycée. Qu'est-ce que vous vous attendez de cette année ?
Tout d'abord, avoir le bac, forcément, mais aussi, par exemple, s'améliorer dans nos notes dans toutes les matières, avoir un bon bulletin pour la fin de l'année.
Et toi, Maria ?
Moi, ce serait déjà évidemment d'avoir le bac en premier lieu et puis de se fixer une discipline sur le travail pour pouvoir avoir une belle continuité dans le travail et puis me permettre après d'avoir des meilleures chances de réussir dans mes études, etc., me donner toutes les chances pour réussir.
Que pensez-vous des changements qui ont été faits récemment, juste avant la rentrée, à propos du bac?
Bah moi, je trouve que c'est une bonne idée, déjà parce que passer les épreuves de spécialité en mars, c'était très contraignant aussi bien pour les professeurs que pour les élèves. C'était très court, c'était très rushé, on peut dire, et puis ça permettait pas vraiment de bien travailler dans de bonnes conditions. Ça nous laisse beaucoup plus de temps, le temps de finir les programmes, de se préparer sur les épreuves et de moins stresser. Certes, le mois de juin va être très rempli, on va avoir beaucoup d'épreuves, beaucoup de révisions, mais tout sera fait d'un coup et ça permettra de pas décrocher. De mars à juin, les élèves ont totalement décroché parce qu'ils venaient plus ou savaient déjà leur bac, donc là au moins ça va permettre d'être dans la continuité et de bien réussir à fond.
Toi Pauline, qu'en penses-tu ?
Je suis d'accord avec Maria, je pense que c'est un bon moyen pour déjà finir les programmes, même si bien évidemment on sera overbooké pour réviser le bac de philo et les spécialités, mais au final je pense que tout simplement on aura beaucoup plus de temps pour apprendre et c'est bien.
Alors la rentrée c'était il y a une semaine, comment est-ce que vous avez fait pour vous remettre au rythme scolaire ?
Alors moi j'ai dormi beaucoup plus, c'est-à-dire que vraiment avant je restais éveillée jusqu'à 3h du matin, puis je faisais des grasses matinées, mais maintenant je me couche vraiment autour de 22h et comme ça je récupère beaucoup de cycles de sommeil et je suis en forme en fait pour toute la journée.
Bah moi je pense que ça vient naturellement, c'est-à-dire que le rythme retrouve son cours, mais c'est surtout s'imposer une discipline, se coucher plus tôt et ne pas rester à des heures, se réveiller, s'imposer aussi une discipline par rapport à avoir du temps pour soi et avoir du temps pour le travail. Et puis ça se construit doucement, mais ça se met en place.
Très bien, merci beaucoup Maria et Pauline. C'est tout pour Parole de Jeunes et je vous retrouve la semaine prochaine.
C'est tout et c'est déjà pas mal pour cette première de Parole de Jeunes avec Jeanne Boudre, toute seule en autonomie, à la présentation que l'on retrouvera chaque semaine le jeudi dans ce magazine régional. À 18h41, on va évoquer un événement qui aura lieu ce week-end, il y en aura même plusieurs d'ailleurs, puisque ces samedis et dimanches seront marqués par les Journées Européennes du Patrimoine, un rendez-vous culturel incontournable de ce mois de septembre. Seul, entre amis, avec des enfants, avec toute la famille, on emmène les papis, les mamies, voici quelques idées de visite à faire du côté de Châlons-en-Champagne avec Christopher Fausten et son invité Pascaline Vattier.
Châlons-en-Champagne, ville circassienne, ville préfecture de la Marne, mais aussi ville d'art et d'histoire depuis 2007. À ce titre, la commune participe à la 40e édition des Journées européennes du patrimoine qui aura lieu les jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre et propose plusieurs thématiques dont l'opération Lever les yeux que nous présente Pascaline Vattier, animatrice du patrimoine et directrice de la Duduchothèque.
La semaine qui précède le week-end des Journées du patrimoine, on va favoriser l'accès à l'éducation artistique et culturelle pour les élèves de Châlons et on va leur proposer différentes visites ou différentes ouvertures du site. Ça va de à la basilique patrimoine mondial de l'UNESCO de l'Épine à l'hôtel de ville en passant par la collégiale qui est également patrimoine mondial de l'UNESCO, évidemment la Duduchothèque.
Autre thématique durant cet événement, le patrimoine du sport.
Nécessairement, on met en avant le village rugby avec un petit peu de culture sur le programme du village rugby et notamment des démonstrations d'art corporel, d'art martial et de musique du Japon. Donc vous pourrez le découvrir aussi sur notre programme, mais surtout dans le village rugby. Et puis on a mis en avant aussi une performance artistique qui allie la musique et le sport. Ce sont des professeurs du conservatoire de Châlons qui nous proposent cette action-là et ça aura lieu au kiosque du Grand Jard. Sur le patrimoine à Châlons, évidemment, une ancienne ville de garnison avec un patrimoine militaire très riche. On met en avant l'ancien siège de la Gestapo qui sera ouvert sur tout le week-end des Journées du patrimoine. Évidemment, le bunker qu'on a redécouvert il n'y a pas très longtemps, avec des visites sur le dimanche matin.
Châlons, ville d'art et d'histoire, c'est aussi le patrimoine religieux que nous présente Pascaline Vattier.
Châlons est une ville épiscopale, dirigée par un évêque dès le début du Moyen-Âge, même avant. Et donc, on a un patrimoine religieux très riche. On met en avant, dans un premier temps, le patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'on fête cette année les 25 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, animation autour de la basilique, autour de la collégiale. Et puis, alors, je suis très contente de proposer cette année, grâce à l'intervention de Musique sur la Ville, un spectacle, j'adore dire unique au monde parce que c'est comme ça, où la lumière est au service de la musique et du patrimoine, avec le Carillon de Lumière qui aura lieu le samedi soir, avec l'intervention de Quentin Le Riche, qui est maître carillonneur et qui va vous faire des compositions. Et je vais en parallèle, entre chaque composition, vous raconter l'histoire de la collégiale et du quartier.
Sur le patrimoine religieux, nous avons également le patrimoine sacré.
On est sur la cathédrale, la chapelle des Récollets, l'église Saint-Alpin, la mosquée, la synagogue et le temple, avec un programme assez riche, surtout le week-end, et des ouvertures exceptionnelles. Et on a également, depuis la Révolution française, un patrimoine religieux reconverti. C'est-à-dire qu'on va utiliser les édifices autrefois religieux sur une autre fonction. C'est le cas de l'abbaye de Vinay qui accueille une artiste chalonnaise. Alors Fanny Roth, mais c'est un peu chalon quand même. Anne-Marie Arétins, qui peint depuis une vingtaine d'années, qui nous présente ses œuvres. Sur l'ancien couvent Sainte-Marie aussi, avec une déambulation artistique, de la danse, de la musique et des contes. L'atelier C215, qui va accueillir le spectacle également d'un professeur du conservatoire, c'est le spectacle « Rien à cirer », qui est présenté par Golozo. Et le samedi, ça, et le dimanche, on accueille deux dessinateurs et dessinatrices de Chalon, c'est Lolita et Tchèque, qui ont travaillé avec nous sur le patrimoine et notamment sur l'histoire avec les explorateurs et les différents livrets qu'on a mis en place dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire. Et enfin, la maison Saint-Joseph, qui est aujourd'hui une maison qui est là pour accueillir les seniors, qui va ouvrir ses portes aussi et vous faire découvrir les lieux.
Chalon, Ville d'Art et d'Histoire. C'est également Cabu et là du Duchotec, Pascaline Vattier.
Ça commence dès le jeudi avec une séance de ciné. On accueille un réalisateur qui a fait un reportage sur Corbier. Parce qu'en ce moment-là, du Duchotec, on accueille une exposition sur les liens forts qui s'étaient tissés pendant plus d'une dizaine d'années entre Dorothée et Cabu. Et donc, bah, Dorothée, c'est aussi Corbier, c'est aussi toute l'équipe autour de Dorothée. Et donc, on a ce réalisateur qui nous a proposé une intervention dans le cadre de cette exposition-là. Et donc, il va venir le jeudi 14 septembre à 18h à l'auditorium de la médiathèque, juste à côté de la du Duchotec. On va diffuser son reportage et puis pouvoir échanger avec lui sur ce qu'il a fait et sur le personnage qui était Corbier. La du Duchotec, c'est aussi le vendredi 15 septembre à 18h un apéro dessiné. Alors ça, Cabu avait l'habitude de le faire quand il était adolescent et jeune adulte pour se faire un petit peu de sous. C'est comme ça qu'il le présentait. Et là, on a fait la même chose. Alors on va découvrir l'exposition, on va boire un coup, mais surtout on va se faire tirer le portrait avec une jolie caricature. On a de nombreux partenariats à la du Duchotec et notamment celle d'une association qui s'appelle Marge. C'est un média satirique qui va mettre en avant de nombreux dessinateurs, de jeunes dessinateurs qui commencent. Donc on a des prix, le prix Presse Citron, ils ont travaillé aussi avec Charlie Hebdo, mais pas que. Et donc là, ils vont venir chez nous pour vous caricaturer. Donc un moment festif, mais aussi un moment créatif. Là, du Duchotec, c'est aussi à l'occasion des Journées du Patrimoine, le fait de la découvrir la nuit. Donc vous êtes avec une lampe torche, et là, on a un lien particulier avec le dessin, quand on est vraiment en tête à tête avec cette lumière qui est projetée sur un seul dessin. Et là, vous verrez comme c'est très agréable. Donc c'est le vendredi et le samedi. Le dimanche, on va goûter avec Dorothée. Ça ne veut pas dire que Dorothée va venir, attention. Ça veut juste dire que nous avons des liens avec Michael Frison, qui est un ancien journaliste sur Europe 1 et qui travaille aujourd'hui pour Libération et qui est je crois, le plus grand fan de Dorothée que j'ai pu connaître, que j'ai pu rencontrer depuis qu'on prépare cette exposition. Et lui, eh bien, il veut venir nous parler de la chanteuse et de l'animatrice Dorothée et des liens qu'elle a pu aussi tisser avec toute cette génération-là de Récréa 2 jusqu'au Club Dorothée.
La Nuit du Chautec est aussi ouverte sur tout le week-end, gratuitement et en accès libre. Ces journées européennes du patrimoine, c'est également près de chez vous, que ce soit à Sedan, à Reims, à Charleville-Mézières, mais aussi à Sainte-Menou, Vitry-le-François, Saint-Dizier, Arcis-sur-Aube, Cézanne. Retrouvez toute la programmation sur ces journées européennes du patrimoine, sur cet événement via le site officiel journeesdupatrimoine.fr.
Merci Christopher Fausten pour ce clin d'œil du côté de Châlons en Champagne. Et comme vous venez de le dire, la programmation complète de ces journées européennes du patrimoine en Champagne-Ardenne, c'est à retrouver sur le site journeesdupatrimoine.fr. Le tout attaché. Et puis par ailleurs, on le rappelle, mais l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, ouvre ses portes du site de la maison diocésaine Saint-Sixte de Reims, où vous pouvez venir donc le samedi tout au long de la journée visiter ce lieu exceptionnel. Et par la même occasion, notamment samedi matin, votre radio RCF Reims-Ardennes ouvre les portes de son studio. Ça sera aussi l'occasion de passer nous faire un petit coucou. Il y aura des bénévoles, notamment les membres du bureau, qui seront là pour vous accueillir, vous expliquer l'histoire de RCF. Et puis vous verrez depuis où cette émission est réalisée tous les soirs dans le studio. Depuis là où on vous parle, depuis où Fabrice est assis en régie en train de manipuler tous les boutons pour vous permettre de nous recevoir. 18h51, c'est le 18-19 en Champagne-Ardenne, on est ensemble jusqu'à 19h.
Le 18-19 sur RCF.
Et on prend la direction de Murphy, deux mers pour le prix d'un ce jeudi à quelques kilomètres de Reims, ce soir donc à Murphy avec Marie-Rose, maire de la commune. L'entretien, c'est avec vous Jean-Pierre.
Marie-Rose, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous d'aller à la découverte des maires. Alors on peut dire que vous êtes maire depuis peu de temps finalement.
Oui, en fait réellement 3 ans puisque j'ai été élue en juillet 2020 au deuxième tour des élections, des dernières élections.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre commune ? Alors, Murphy, c'est combien d'habitants aujourd'hui ?
Alors, Murphy, c'est 620 habitants. Nous sommes une commune rurale, je dirais, périurbaine, puisque dans le Grand Reims, c'est tout près de Reims, malgré tout. Nous avons beaucoup de viticulteurs sur le secteur. Nous avons également une zone Natura 2000 et les sablières avec une jolie...
Tous ceux les gens de Reims connaissent bien Murphy.
Bien sûr, bien sûr.
Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un phénomène, je ne sais pas si vous l'analysez, vous en tant que maire, c'est que peut-être à la suite du Covid, il y a quand même beaucoup de gens qui habitent en Reims, souhaitent aller dans des villages environnants pour profiter quand même de la beauté des villages. C'est un beau village, Murphy.
Oui, bien sûr, c'est un beau village, c'est mon village.
Et donc...
Mais c'est vrai que les gens recherchent la campagne, surtout depuis le Covid. Nous avons peu de maisons à vendre et beaucoup de demandes. Et c'est vrai que quand une maison est en vente sur le village, ça part très vite.
Alors, il faut dire que vous avez été conseillère municipale. Et puis, tout d'un coup, c'est un peu les circonstances qui vous ont dit, bah, à un moment donné, le maire arrête et puis moi, je vais reprendre le flambeau.
Oui, en fait, j'étais conseillère municipale pendant 6 ans, un mandat. Je souhaitais m'impliquer un peu plus en me présentant en tant qu'adjointe. Et le maire ne se représentant pas, donc Monsieur Verdebout, et du coup, personne ne voulait prendre sa place et tout le monde m'a un petit peu poussé pour me présenter en tant que maire.
Alors c'est vrai que on entend aussi, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des maires qui ne veulent plus y aller parce qu'ils disent on a énormément de travail, de responsabilité. Il faut dire que le maire est très souvent sollicité. Vous, en tant que maire, parfois, vous devez répondre à des tas de questions, des tas de gens qui vous, peut-être même vous interpellent dans la rue, non ?
Oui, bien sûr. Quand on se promène dans le village, on est souvent interrogé. Mais bon, ça fait partie du job, je dirais. Donc, il n'y a pas de souci.
Mais vous aimez ce contact
bien
avec
sûr,
les personnes.
Bien sûr, il faut aimer le contact avec les personnes et pas hésiter à parler, à dialoguer avec les gens. C'est vrai qu'on est beaucoup sollicité en tant que maire. On ne se rend pas compte du travail au quotidien d'un maire. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, de responsabilités, mais c'est très intéressant.
Alors, il faut dire aussi que depuis quelques années, il y a eu les communautés de communes et maintenant, il y a forcément le Grand Reims. Alors là, il y a plusieurs versions, plusieurs avis, tout le monde n'a pas le même avis, mais beaucoup de gens sont assez d'accord pour dire que le maire garde quand même un certain nombre de responsabilités. Est-ce que le maire est encore le patron chez lui, d'une certaine façon ? Oui et non ?
Oui. Oui, quand même. C'est le maire, ça reste l'élu du village. Il représente la population et il a quand même son mot à dire sur beaucoup de choses. Maintenant, être dans le Grand Reims, ça porte aussi des avantages et des inconvénients, forcément. Mais on peut pas avoir les deux. Et enfin, le beurre et l'argent du maire. Moi, je l'ai pas connu avant le Grand Reims, vraiment. Donc, je peux pas trop me prononcer. Mais pour moi, c'est plutôt positif.
Alors, quand vous rencontrez les personnes, les habitantes, les habitants de Mère-Fille, quelles sont les questions qu'ils vous demandent ? Est-ce que parfois c'est des questions personnelles et vous réglez tel ou tel litige, telle ou telle question ? Ou alors, de façon générale, ils disent bah, on aimerait mieux qu'il n'y ait plus de verdure, la voirie améliorée.
Oui, en fait, j'ai été surprise en début de mandat par le fait que beaucoup de gens ont des problèmes de voisinage et en fait des guerres de voisinage.
Vous n'avez pas encore eu, comme certains maires, le problème d'un coq qui réveillait tout le monde à 5h du matin.
Non, mais c'est pas loin.
C'est pas loin.
C'est pas loin. Donc c'est vrai.
Mais là, vous avez, j'allais dire, je me permets, hein, Marie-Rose, que là, vous avez quand même un devoir de discrétion parce que parfois, on est ici sur RCF, je ne dis pas que c'est un confessionnal, mais vous avez des gens qui peuvent parler de leur vie personnelle, de leur vie privée. Vous êtes au courant de ce qui se passe ici ou là. Et vous devez quand même respecter un petit peu cette discrétion.
Ah, bien sûr.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se confient quand ils voient le maire, pour eux, parfois, c'est un confident.
Oui. Oui, oui, ça peut être un confident. En fait, le maire a plein de casquettes. Et c'est ça qui est intéressant dans ce mandat, c'est que c'est très varié. Et moi, j'aime pas la morosité. Donc, du coup, ça me plaît parce que c'est très varié, qu'on fait plein de choses différentes, surtout dans une petite commune. Parce que, voilà, j'ai été privée d'employé communal pendant un temps. Donc, je fais l'employé communal avec mes adjoints. Je fais du bureau, je fais des réunions au Grand Reims, c'est très varié.
Dans les petites structures, et on sait ce que c'est à RCF, dans les radios, chacun qui travaille, il a son travail. Mais en fait, je ne dis pas qu'il doit tout faire, mais enfin, on doit quand même...
Il faut être polyvalent.
Polyvalent. Évidemment, dans cette vie de maire, il y a aussi une vie professionnelle, vous aviez travaillé, etc. Une vie familiale, c'est pas toujours simple de conjuguer les deux.
Non, mais pour moi, c'est relativement simple.
Vous êtes bien organisée, peut-être.
Mon mari est élu aussi de son côté, donc il comprend mes contraintes et mes obligations, et moi, je comprends les siennes. Donc,
c'est-à-dire que votre mari est très pris aussi.
Tout à fait.
Donc, de toute façon, et puis il connaît bien le Grand Reims, oui. Puisqu'il en est l'un des vice-présidents. J'ai envie, pour conclure, parce que c'est pratiquement terminé, hein, Marie-Rose, on resterait des heures avec vous pour connaître mieux Mère-Fille. Mais est-ce que vous êtes une mère heureuse, finalement,
oui.
Malgré tous les problèmes, les travers ?
Bien sûr, bien sûr. Mon père a été maire, mon frère a été adjoint, ma sœur a fait partie du conseil municipal. Je pense qu'on a ça dans l'ADN chez nous et donc ça me fait plaisir d'être élue dans ma commune.
Une mère heureuse, Marie-Rose, mère de Mère-Fille. Merci en tout cas, Madame Marie-Rose, d'avoir été avec nous.
Merci Jean-Pierre.
Et puis, on aura l'occasion, bien sûr, de reparler de Mère-Fille, une très très belle commune, avec un très beau point de vue hein, sur Reims.
Hein,
on voit les vignes, etc. Pendant les vendanges, ça va beaucoup bouger.
Oui.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Eh bien voilà, merci à vous aussi, Jean-Pierre Benoît, 18h58 dans le 18-19 en Champagne-Ardenne. Dans quelques instants, c'est le réseau national de RCF qui va prendre le relais avec toute l'actualité, évidemment. Mais pour les fans de sport, parce qu'on n'en a pas parlé dans le journal régional, c'est une actualité nationale, internationale. La Coupe du Monde de rugby, ça se passe toujours en France. Et ce soir, le 15 de France joue face à l'Uruguay, coup d'envoi à 21h, avec une équipe, j'allais dire, en turnover maximum. Anthony Gelon fait son retour. tour dans cette sélection. Lui qui revient de blessure, il va disputer son premier match depuis le début de l'année civile et il est même le capitaine des Bleus ce soir. France-Uruguay, donc coup d'envoi de ce match à 21h. Certainement que le réseau national de RCF aura un petit mot pour l'équipe de France de rugby. Au programme également, eh bien, c'est le 18-19 en Champagne qui revient demain vendredi à 18h10 avec de nouvelles actualités. On sera notamment avec l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur Éric de Boulin-Beaufort. On aura la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen qui reviendra sur les catastrophes naturelles et notamment le tremblement de terre qui a frappé le Maroc il y a maintenant quelques jours. On a évidemment une pensée pour toutes les victimes et leurs proches qui sont touchés par ce terrible drame. Voilà pour le teasing, comme on dit. Nous, on vous laisse. Il est grand temps d'envoyer le générique. Ce sera avec Fabrice Gironet qui était à la réalisation ce soir. On vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de nos programmes et à très vite sur RCF.